Il faut le progrès, il faut pas la pagaille.
Notre village au fil du temps. Un épisode proposé par Jean-Louis Taché. Aujourd'hui, Fontenay-le-Marmion, durant la Seconde Guerre mondiale. Premier épisode, 1940-1944, l'occupation. Bonjour Jean-Louis, voulez-vous bien nous replacer dans le contexte ?
Le contexte en juin 1940, le moral il est en berne partout, dans toute la France et à Fontenay-le-Marmion aussi naturellement. Juin 40, l'armée française est en déroute comme on le sait, mais tout le monde le sait, tout le monde suit ça à la radio. Beaucoup d'hommes du pays sont au front, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'armée allemande, elle va bientôt arriver. Alors le moral, naturellement, il est au plus bas. Tout le monde est inquiet. Il faut aussi se rappeler que, quand même, c'est la troisième guerre que la France subit avec les Allemands en 70 ans. 70 ans, c'est une vie d'homme. Une génération a pu connaître trois guerres. Les séquelles de la dernière, de 14-18, sont encore visibles partout, dans les cœurs et dans les esprits. Alors le Boche, autant dire qu'il est détesté. Alors on attend, dans le contexte, on attend les Allemands, naturellement, avec beaucoup, beaucoup d'inquiétude.
À quelle date l'armée allemande va entrer dans le village de Fontenay-le-Marmion ?
L'armée allemande va entrer à Fontenay-le-Marmion autour du 20 juin 1944. Ils sont arrivés un dimanche matin, c'était la sortie de la messe, il était 11h. Ils sont arrivés, c'était très impressionnant parce qu'on a vu arriver des voitures décapotables. Alors, beaucoup de voitures décapotables. Chez nous, on était encore avec beaucoup de chevaux. C'était très impressionnant pour les gens du pays. Mais tout de suite, les Allemands, l'armée allemande va prendre ses marques. Ils vont tout de suite procéder à beaucoup de réquisitions. Alors les réquisitions, c'est-à-dire qu'ils s'installent comme s'ils étaient chez eux. Par exemple, la ferme de la Dîme, ils vont l'investir. Le cultivateur, on le prie de quitter les lieux. Il est carrément éjecté. Et cette ferme, on en fera une caserne. Ils investissent également ce qu'on appelle la maison des Tourelles, c'est l'actuelle mairie de Fontenay, pour en faire une commandanture. Là aussi, ils délogent tout le monde, les propriétaires, le personnel de maison qu'il y avait, les gardiens. Tout le monde part et les gardiens, par exemple, le personnel de maison, sont partis avec des brouettes pour emmener leurs affaires. Il a fallu qu'ils fassent très très vite. Ensuite, on réquisitionne aussi l'école des filles, qui est située actuellement à côté des feux, à Fontenay. On réquisitionne également l'école des garçons, qui a été détruite, on ne la voit plus. Là où il y avait l'école des garçons, il y avait également la mairie. On réquisitionne aussi une maison qui est juste à côté de l'église, dont on fera une infirmerie. Et puis on va procéder à d'autres espaces, tels que une maison pour faire un centre de transmission, un autre endroit pour en faire un chenil pour les chiens de l'armée allemande. Alors, à la ferme de la famille Anne, qui existe toujours, juste à côté de la Dîme, les Allemands arrivent. Ils installent tout de suite leurs popotes dans la cour de la ferme, sous un hangar, et puis ils vont d'emblée réquisitionner la salle à manger de la maison, ainsi que le couloir. La salle à manger, tout ça, étant réservé pour les repas des officiers de l'armée. Ils vont prendre possession, naturellement, de l'aérodrome de Fontenay-le-Marmion et de toutes les installations qu'il y avait. Alors, on estime quand même que au bout d'un certain temps, à Fontenay, il y avait autour de 180 soldats allemands, ce qui était quand même considérable.
Alors justement, Jean-Louis, est-ce que vous pouvez nous parler de cet aérodrome à Fontenay ?
Alors l'aérodrome de Fontenay, il s'étalait entre Rocancourt, Fontenay et Calouet. C'est un aérodrome qui avait été fait en 1939 par l'armée française. Il représentait à peu près 150 hectares. Lorsque les Allemands sont arrivés, ben naturellement, ils en ont pris possession tout de suite. Et ils vont y construire des baraquements, ils vont procéder à certains aménagements. Ils vont même construire un blockhaus à Fontenay qui existe toujours. En avril 1941, on recense 150 personnes civiles qui travaillent pour les Allemands aux installations de l'aérodrome. Dans un premier temps, cet aérodrome va beaucoup servir pour la bataille d'Angleterre, ce qu'on appelait la bataille d'Angleterre en juin 1940. Les avions décollaient d'ici et ça a duré tout le mois de juin 1940. Puis, à bout d'un certain moment, les Allemands, voyant qu'ils n'arriveraient pas à avoir le dessus de la RAF, eh bien, ils vont abandonner l'idée d'envahir l'Angleterre. Et donc, cet aérodrome va servir de centre d'entraînement pour des parachutistes allemands. Alors, comment il était fait cet aérodrome ? Il faut savoir que c'était un aérodrome, pas avec des pistes en béton, hein, c'était des pistes en RB. Hein. Des témoins m'ont raconté qu'il y avait à peu près en permanence une 10-15 avions, hein, et qu'il y avait à peu près 50 abris situés qui étaient le long des pour être cachés. Ces abris et tout ça, et les avions étaient recouverts de bâches en tissu, en vert marron, pour ne pas être vus par l'aviation des Anglais, quoi. Hein? Et on raconte que, vrai ou pas vrai, mais enfin, en tout cas, on raconte que les Anglais n'ont pas été dupes, que les Allemands avaient mis des avions en bois, hein, pour tromper les Anglais. Et que les Anglais, du coup, eh bien, ils avaient renvoyé des bombes en bois. Alors ça, c'est pas impossible que ce soit de l'humour anglais. Hein. En tout cas, sur cet aérodrome, il y avait quand même 9 canons anti-aériens et 2 points d'appui de défense terrestre plus importants. On y trouvait aussi un dépôt de bombes, un dépôt d'essence. Actuellement, pour situer, il était au bout de la rue des Castors, à droite. Après le débarquement de 1944, au moment du débarquement de 1944, les Allemands reviendront avec des avions pour les combats du débarquement. Pendant l'occupation, il faut savoir que la circulation entre Fontenay et Bretteville-sur-Lèze était très réglementée du fait de cet aérodrome, et il fallait être muni d'un laissez-passer pour pouvoir aller de Fontenay à Bretteville-sur-Lèze. Et le soir, la circulation était complètement fermée. Au niveau de la ferme Ehan, il y avait une barrière qui fermait l'accès pour toute la nuit.
Comment les habitants de Fontenay vont vivre cette difficile période d'occupation allemande ?
Bah, naturellement, la vie des habitants va énormément changer. Hein. D'abord, la première chose, il faut se mettre à l'heure allemande, 2 heures de décalage avec l'heure française. Ensuite, la vie est complètement désorganisée du fait des réquisitions que les Allemands ont faites. Réquisition des maisons, des locaux, des moyens de transport tels que les voitures. On y en avait peu, mais ils ont quand même réquisitionné des voitures, les chevaux, les bicyclettes. Elles n'étaient pas toutes réquisitionnées, mais quand elles ne l'étaient pas, il fallait quand même aller les déclarer. Elles étaient enregistrées. On réquisitionnait de la main-d'œuvre, hein, pour l'armée allemande. Naturellement, on réquisitionnait beaucoup la nourriture. Hein. En fait, l'occupant se servait de tout ce dont il avait besoin. Les habitants qui étaient détenteurs de fusils et de postes de TSF devaient obligatoirement aller redonner tout ça à Bretteville-sur-Lèze. C'était punissable de la peine de mort si on ne rendait pas son fusil, par exemple. Ensuite, dans le changement, un couvre-feu est installé. À 9h du soir, tout le monde doit être rentré chez soi. Pas question d'aller se balader le soir. Obligation pour tous les habitants d'occulter toutes les fenêtres qu'ils avaient chez eux pour que le soir, on ne puisse pas voir les lumières des maisons, enfin les aviateurs, quoi, toujours à cause de l'aérodrome, hein, probablement. Donc il faut occulter toutes les sources de lumière, aussi bien sur les voitures, les vélos, enfin partout, quoi. Et puis il faut aussi s'habituer à la présence de l'armée allemande, hein. Ici à Fontenay, comme il y avait beaucoup de soldats, il fallait les occuper. Donc ils faisaient tous les jours des rondes avec des chiens. Ils faisaient des défilés au pas qu'à danser et en chantant. Il faut quand même vivre avec ça, hein. C'est quand même un grand changement, hein. Ensuite, parfois, on réquisitionnait les hommes pour aller planter ce qu'on appelait des asperges à Rommel et faire des tranchées autour de l'aérodrome. Alors, pour rappel, les asperges à Rommel, ce sont des piquets de bois que l'on plantait à la verticale pour empêcher les avions anglais d'atterrir, quoi. Voilà. Il est même aussi arrivé qu'on réquisitionne des enfants des écoles pour aller ramasser les cailloux sur l'aérodrome.
Quels sont les rapports de l'armée allemande avec la population? Comment ça se passe? Est-ce que...
Dans un premier temps, et je dirais contrairement à toute attente, ben les rapports se sont pas trop mal passés, en fait, hein. L'armée allemande, qui avait des consignes, eh bien, n'était pas agressive. Les rapports étaient plutôt assez bien, quoi, hein. Mais au début, en tout cas, parce qu'après, à la fin de l'occupation, quand les SS vont arriver, là, c'était une autre histoire. Même les soldats de la Wehrmacht, l'armée régulière, avaient peur des SS. C'était la terreur, les SS. Alors, par contre, le soir, dans le village, on ne pouvait pas sortir. Les fêtes le soir étaient interdites. Les bals étaient interdits. Pour se déplacer, tout était devenu compliqué parce que il n'y avait plus de moyens de locomotion, ils avaient été réquisitionnés. Il n'y avait plus de train depuis 1936. Pour les enfants aussi, ça a été un grand changement, il a fallu s'adapter parce que comme ils avaient réquisitionné l'école des filles et des garçons, alors la mairie avait trouvé une pièce à louer, une chambre à louer, dans laquelle elle faisait l'école le matin pour les filles, l'après-midi pour les garçons, ou vice-versa, ont changé toutes les semaines. En fait, c'était l'école à mi-temps, en fait, hein. Le grand changement, ça a quand même été la nourriture. La nourriture, c'est devenu un gros problème, hein, parce que tout étant le maximum réquisitionné pour l'armée allemande et pour envoyer aussi en Allemagne, hein, eh bien, il y a eu des restrictions très importantes, hein, de nourriture, mais aussi de tous les autres biens de consommation courante, quoi. Alors, pour pallier à toutes ces restrictions, le gouvernement avait mis en place un système de cartes de rationnement avec des tickets, hein. Les tickets donnaient droit à avoir du pain. Il y avait des tickets pour le beurre, pour le pain, pour les pommes de terre, pour le sucre, pour les légumes, pour le café, le savon. Enfin, il y avait des tickets pour tout. Et les tickets, les rations étaient calculées en fonction de l'âge des individus. Tout le monde n'avait pas la même quantité de pain selon son âge, selon ce qu'il faisait comme boulot aussi. Ce qui était aussi très très difficile à trouver, c'était les vêtements et les chaussures.
Alors Jean-Louis, forcément, durant cette terrible occupation, on a recours au système D, à la débrouille.
Bien oui, évidemment. Hein. Compte tenu que tout manquait, il a bien fallu pouvoir s'adapter, parce qu'il fallait vivre. Hein. Alors ainsi, par exemple, le boulanger, lui, il n'avait pas de farine blanche, donc il faisait du pain noir, ce qu'on appelait le pain noir, mais ça, le pain, c'était pas bon. Alors les gens, pendant la période des moissons, ben, ils allaient glaner des épis de blé, et qu'ils broyaient avec moulin à café. Alors ça faisait une mauvaise farine, pas forcément bien tamisée, mais enfin, on faisait avec. Le sucre, ben, on m'a raconté, par exemple, qu'on faisait cuire des betteraves dans une cocotte pour en récupérer une espèce de pâte caramélisée, mais qui était sucrée. Le beurre. Alors le beurre, c'était très difficile à trouver pour les habitants. Beaucoup m'ont dit que c'était beaucoup plus facile pour les Allemands d'avoir du beurre que les Français. Le café, bah, le café, c'était quasiment introuvable. Alors on faisait un substitut de café avec des grains d'orge qui étaient grillés. Hein, la chasse, bah, les hommes ne pouvaient plus chasser, naturellement, c'était interdit. Alors ils s'adonnaient pour beaucoup au braconnage. Et ceci dit, à Fontenay, il y avait deux grands spécialistes du braconnage bien connus. Il faut dire aussi qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gibier, notamment beaucoup de lapins. Alors, bah, ces deux braconniers, bah, ils revendaient aussi le fruit de leur braconnage. Naturellement, il y avait aussi un peu de marché noir. Alors, on faisait pas forcément du marché noir pour s'enrichir, mais simplement pour manger, quoi. Hein. Alors, on faisait de l'abattage clandestin. Alors, quand il s'agissait de cochons, de veaux, ça se passait à la ferme, mais on faisait même de l'abattage clandestin de vaches. Et là, ça se passait la nuit chez le boucher. Pour emmener la vache chez le boucher, on attendait que la patrouille allemande soit passée. On m'a raconté ça. Alors, on mangeait aussi des pois à vache. Alors là aussi, autant vous dire, c'était pas très bon. Malgré tout, ici, à la campagne, les gens avaient, pour beaucoup, des jardins. Et donc, ils cultivaient des légumes. Et ils élevaient de la volaille, donc ça aidait quand même beaucoup. Hein. C'était difficile, mais à la campagne, c'était quand même plus facile de se nourrir. Là où c'était plus compliqué, c'était l'habillement. Hein, difficile à trouver, il fallait raccommoder jusqu'à plus fin, quoi. Hein. C'était, fallait rapiécer. Les chaussures, c'était pareil. Alors on m'a raconté qu'à Roquencourt, il y avait un sabotier qui faisait des sabots, en bois naturellement, et il les habillait avec des peaux de lapin. Et petite coquetterie, on pouvait choisir la couleur de sa peau de lapin. On pouvait même amener sa peau de lapin. Le tabac, bah, beaucoup de gens fumaient à l'époque. Hein. C'était aussi une denrée qui était très rare. Alors on faisait griller des feuilles de vigne pour les fumer. Alors on faisait du savon avec du suif quand on en trouvait. Alors d'autres produits, par exemple, qui manquaient, c'était les chambres à air. Les chambres à air et les pneus de vélo. C'était impossible d'en trouver. Donc ici, on remplaçait ça par des tuyaux d'arrosage que les mineurs ramenaient de récupérer à la mine. Et puis, il y avait bien sûr bien d'autres produits qui manquaient, l'essence, enfin, etc., quoi.
Et qu'en est-il de la résistance à Fontenay-le-Marmion ?
Alors, il n'y avait pas à Fontenay-le-Marmion de réseau de résistance à proprement parler, donc pas d'actes résistants notoires qui m'aient été rapportés. Mais je peux quand même faire état de quelques anecdotes qui sont quand même des faits de résistance. Hein. Alors, par exemple, tous les postes de radio qui devaient être rendus, comme je l'ai dit, à Bretteville, n'ont pas été rendus. Donc, on écoutait la radio clandestinement. Hein, la TSF, Radio Londres notamment, hein. Et donc en fait beaucoup de monde savait quand même ce qui se passait. Par ailleurs, de temps en temps, les Anglais parachutaient la nuit des journaux qu'on appelait le Courrier de l'air. Ça, je ne le savais pas, je l'ai appris récemment. Hein. Alors naturellement, quand ils parachutaient ces journaux, les Allemands s'empressaient de les ramasser, mais il y avait toujours des journaux qui restaient à droite ou à gauche. Mais c'était interdit de les prendre. Les gens le faisaient quand même. Alors, les hommes qui étaient réquisitionnés pour aller travailler pour les Allemands, bah, parfois, faisaient un peu de mauvaise volonté pour n'aller pas vite pour travailler. Par exemple, quand on allait pour aller mettre des asperges à Rommel, il fallait aller couper le bois dans la forêt de Saint-Glé. On partait avec des chevaux, on revenait avec des chevaux. Quand il fallait planter les asperges, eh bien, souvent les manches de pioche cassées, ce qui empêchait de travailler. Enfin, tout était bon pour retarder au maximum le travail qu'on demandait. Alors, un autre fait d'armes quand même, je dis fait d'armes parce qu'un habitant m'a raconté, son grand-père, un jour, avait trouvé deux pigeons dans des petites cages qui avaient été parachutées avec des petits parachutes. Ces deux pigeons étaient bagués et il y avait un message dans chaque bague qui demandait à avoir des informations sur l'aérodrome, les troupes qui y étaient stationnées, etc. Et cet habitant m'a raconté que son grand-père, après avoir nourri les pigeons, trouvé les informations dont il pouvait détenir, a relâché les pigeons qui, vraisemblablement, sont repartis en Angleterre. Une autre fois, un pilote canadien abattu a été caché pendant 2 jours dans une petite cabane de berger qui existait, qui était sur l'actuelle crête de Fontenay, là où il y a les vergers. Et cet aviateur est reparti après qu'on lui ait donné des vêtements civils.
Qu'est-ce qu'on sait de l'éventuelle collaboration avec l'ennemi ?
Alors, il n'y a pas eu de collaboration véritablement avérée. Hein. Cependant, il m'a quand même été rapporté que, par des habitants que on se méfiait de certaines personnes. Et que d'ailleurs, ces personnes ne sont pas réapparues après la libération, ne sont pas revenues habiter au village. Alors, il y avait aussi ce qu'on appelait la collaboration horizontale. Là, malheureusement, là, c'était un épisode dont on peut quand même parler. Elle a laissé quelques souvenirs ici, et il m'a même été rapporté par plusieurs sources que 2 femmes avaient été tondues.
Résumer, on comprend que ces 4 années ont été terribles à Fontenay-le-Marmion, comme ailleurs, bien sûr. Et comment les anciens, ceux qui ont vécu la guerre, vous l'ont raconté, Jean-Louis ?
Ça a été un traumatisme pour toute la population qui a vécu ces événements. Vous vous rendez compte, 4 ans, c'est pas rien. Heureusement, la libération va arriver. Et ça, c'est un autre épisode.
Ce soir, il y a de la lumière.